19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 23 mai, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Bagessi Koura.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, le Mali, le gouvernement est sous pression internationale pour relancer le dialogue avec les rebelles.
Nous avons toujours été ouverts au dialogue, à l'échange avec nos frères, a déclaré le président Ibrahim Boubacar Keïta.
En République centrafricaine, à Bambari, bastion des ex-Séléka, la tension reste palpable au lendemain des accrochages avec Sangaris.
Des membres de la communauté musulmane ont manifesté ce matin contre la présence de Sangaris et pour s'opposer au désarmement des ex-Séléka.
À la CPI, l'ex-chef milicien congolais Germain Katanga est condamné à 12 ans de prison. En Thaïlande, aucune nouvelle des dirigeants politiques depuis qu'ils ont répondu à une convocation des putschistes. Sans oublier les sports et la musique, mais avant, le journal.
Nous ouvrons sur le Mali. Le gouvernement est sous pression internationale pour relancer le dialogue suite à la défaite de ses forces à Kidal face à des groupes armés Touareg, Lionel Gaïma.
Une vingtaine de soldats maliens ont été tués et une trentaine blessés dans les combats cette semaine à Kidal, selon le ministre malien de la Défense, Soumeilou Boubey Maïga. Le MNLA avance un autre bilan de 40 soldats tués, 70 prisonniers et une saisie de plusieurs véhicules. Le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu aujourd'hui à Kidal, après son escale hier à Bamako. Il a exhorté au dialogue et tenté d'obtenir un cessez-le-feu des rebelles après la trêve unilatérale décrétée par Bamako. La France a aussi demandé la reprise des négociations, ainsi que le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, qui a appelé à un cessez-le-feu et au retour de la situation antérieure. Nous avons toujours été ouverts au dialogue, à l'échange avec nos frères, a déclaré le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les combats avaient éclaté le 17 mai à Kidal à l'occasion d'une visite du Premier ministre Moussa Mara.
Et puis, conséquence des affrontements dans le nord du Mali, la France reporte le déploiement de son dispositif militaire au Sahel. Ce déploiement ne devra intervenir que d'ici un ou deux mois, si les choses évoluent bien, précise une source diplomatique française citée par l'AFP.
En RCA, la tension est encore palpable à Bambari, au lendemain d'accrochages ayant paralysé les activités économiques. La ville a été le théâtre d'une nouvelle manifestation contre les soldats français. Le point avec Idriss Fall.
Les soldats français de l'opération Sangaris ont occupé le quartier Kidikra de Bambari pendant que des manifestants ont envahi le quartier Setero, centre des activités administratives et économiques. Ils ont dressé des barricades limitant la circulation. Des membres de la communauté musulmane ont manifesté ce matin contre la présence de Sangaris et pour s'opposer au désarmement des ex-Séléka. À Bangui, le collectif des ressortissants de la Waka dénonce la montée des violences dans un communiqué. Le collectif a appelé la communauté internationale, les militaires et le gouvernement centrafricain à user des moyens nécessaires pour ramener la paix dans cette préfecture.
Boko Haram dans le viseur de l'ONU. Le Conseil de sécurité a imposé des sanctions contre le groupe islamiste nigérian. Le Nigeria avait demandé aux Nations Unies d'ajouter Boko Haram à la liste des groupes liés à Al-Qaïda, soumis à un gel de leurs avoirs, l'interdiction de voyager faisant l'objet d'un embargo sur les armes.
Le groupe islamiste a enlevé près de 300 adolescentes le mois dernier. Le sultan de Sokoto, chef des musulmans du Nigeria, appelle à la tenue d'une journée nationale de prière pour la paix et la sécurité dimanche à Abuja.
La Cour pénale internationale a condamné à 12 ans de prison l'ex-chef milicien congolais Germain Katanga. Il a été reconnu coupable de complicité dans la destruction en février 2003 d'un village en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Nathalie Barge.
En mars dernier, la Cour pénale internationale avait estimé que Germain Katanga avait coordonné l'approvisionnement en armes de ses miliciens avant l'attaque du village de Bogoro en Ituri. Quelques 200 personnes avaient été tuées. Le procureur avait requis jusqu'à 25 ans, mais le juge Bruno Cotte a retenu 12 ans de prison. Le juge a estimé que le fait qu'il ait été complice des crimes et non auteur direct, qu'il ait participé au processus de paix et collaboré avec la cour, a joué en faveur de la réduction de la sentence. Germain Katanga a passé près de 7 ans en détention à La Haye, donc il lui reste environ 5 ans à purger. Son avocat, David Hooper, a affirmé qu'il pourra, dès septembre 2015, demander une libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. Ce vendredi, l'Action congolaise pour le respect des droits humains a regretté que les réparations pour les victimes n'aient pas encore été décidées.
Au Niger, le juriste Boubacar Hassan a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Il avait été arrêté dimanche pour avoir commenté un arrêt de la Cour constitutionnelle qui lui reprochait d'avoir jeté le discrédit sur la haute cour. Il entend faire appel de cette décision.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Thaïlande, l'ex-premier ministre Yingluck Shinawatra et des dizaines d'autres personnalités politiques ont disparu après avoir été convoqués par les chefs militaires qui ont pris le pouvoir cette semaine. Camille Gros-Didier.
Après avoir été convoquée par l'armée, Madame Yingluck et d'autres leaders se sont rendus dans une base militaire à Bangkok vendredi. Parmi eux, l'ancien premier ministre intérimaire Niwatumong Busong Paisan, qui jusqu'au coup d'État était le chef du gouvernement lorsque la justice a forcé Madame Yingluck a démissionné. L'agence Reuters cite un haut responsable de l'armée disant que Madame Yingluck pourrait être détenue pendant une semaine. L'armée avait déjà interdit à plus de 150 personnalités politiques de quitter la Thaïlande, sauf autorisation. Les chaînes de radio ont recommencé à diffuser vendredi soir. Selon le général Prayut Chan-o-cha, le coup d'État vise à rétablir l'ordre public et imposer des réformes politiques. Le putsch est intervenu hier au terme de plus de 6 mois d'affrontements politiques et de manifestations parfois violentes.
En Ukraine, les combats se sont poursuivis ce vendredi dans l'est du pays. 2 jours avant la présidentielle, forces gouvernementales et séparatistes pro-russes se sont affrontés à Semenovska, Rubines et Donetsk. Hier, 13 soldats gouvernementaux ont trouvé la mort dans la région. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné la violence, disant que toutes les parties devraient redoubler d'efforts pour garantir un scrutin libre, honnête et paisible.
Et de son côté, le président russe Vladimir Poutine affirme que la Russie va respecter le résultat de l'élection présidentielle de dimanche en Ukraine. Il travaillera avec le chef de l'État élu, souligne-t-il. C'est ce que nous dit Jean-Roger Billon.
C'est un geste d'apaisement avant le scrutin présidentiel dimanche en Ukraine, mais le président russe a ajouté qu'il espère que l'élection sera immédiatement suivie d'une suspension de toutes les actions militaires dans l'Est et l'amorce d'un processus de dialogue. M. Poutine a également reconnu que les sanctions occidentales imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée ont un impact négatif sur les entreprises russes, mais il a prédit un effet boomerang sur les pays qui les ont imposées. Vladimir Poutine se dit optimiste quant à la résolution de la crise en Ukraine et croit en une prochaine amélioration des relations avec les États-Unis. 21 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle en Ukraine. Le milliardaire Petro Porochenko et l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko sont donnés favoris par les sondages. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour est prévu pour le 15 juin.
En Syrie, les rebelles ont tué hier au moins 21 personnes durant un meeting électoral organisé pour le président Bachar al-Assad à Dera dans le sud. L'Observatoire syrien des droits de l'homme précise que 11 des victimes sont des civils. 2 candidats peu connus feront face à Bachar al-Assad dans la présidentielle du 3 juin. L'opposition et plusieurs pays occidentaux rejettent la légitimité de ce scrutin.
4 hommes lourdement armés ont ouvert le feu ce vendredi sur le consulat de l'Inde à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Il n'y a pas eu de victimes parmi le personnel diplomatique. Les assaillants ont été tués lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité, indique-t-on de sources policières.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, l'État de Tennessee rétablit l'usage de la chaise électrique. Le gouverneur républicain Bill Haslam a signé un projet de loi autorisant les autorités à électrocuter un condamné à mort si les médicaments pour une injection létale ne sont pas disponibles.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Diriec et Bagessi Koura. Retour sur les violents affrontements qui se sont déroulés cette semaine à Kidal, dans le nord du Mali. Les rebelles Touareg du MNLA ont repris le contrôle de cette ville lors de combats qui ont coûté la vie à de nombreux soldats maliens. C'est dans ce contexte qu'une marche de soutien à l'unité du Mali a été organisée hier à Bamako. Reportage de Kassim Traoré.
À l'appel de l'Union nationale des travailleurs du Mali et des femmes du Mali, les Bamakois sont sortis massivement pour apporter leur soutien au gouvernement.
Un message patriotique, un message de soutien aux forces armées et de sécurité, un message aux forces internationales de jouer pleinement leur rôle.
Le Mali est souverain, le Mali est unique, le Mali ne sera jamais englouti.
Nous disons la paix, nous voulons que la paix au Mali. Et nous réaffirmons notre attachement au principe de l'indivisibilité du territoire et de l'intégrité du territoire, à la laïcité.
24 heures après l'affrontement de Kidal, le ministre malien de la Défense fait son bilan. Soumelou Boubé Maïga.
Pour l'essentiel, aujourd'hui, nous procédons à une réorganisation de nos forces à partir de Gao et puis d'autres points. Au niveau du bilan, nous n'avons pas fini d'évaluer nos pertes en vie humaine. Nous savons seulement que parmi les pertes, il y a le colonel Faisal, malheureusement, avec d'autres. Et nous avons 97 éléments au niveau de camp 2 avec l'aménagement, parmi lesquels 22 blessés.
Le MNLA annonce qu'il a 70 prisonniers. Le ministre malien de la Défense n'est pas d'accord avec ces chiffres.
Parmi les prisonniers, ils sont beaucoup moins que la propagande de l'autre camp ne le laisse croire. Nous essayons de regrouper nos éléments, de revoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de faire le point, de tirer les leçons et pouvoir, en attendant d'autres instructions, pour pouvoir nous reconfigurer.
Selon Soumelou Boubé Maïga, la ville de Benaka n'est pas tombée.
Menaka est sous pression de la part d'éléments que nous estimons majoritairement du Mujao, mais alliés à tous les autres. Et sur Menaka, nous sommes en relation avec la force Serval, qui est prête à considérer positivement nos demandes d'appui. Mm-hmm. Mais pour le moment, Menaka n'est pas tombé. Et partout dans les autres secteurs, nos positions sont intactes, à Tessalit, à Guelog.
Le gouvernement malien, dans un communiqué, a accepté le cessez-le-feu et la reprise des négociations, tout comme l'Union européenne et la France, qui l'ont fait savoir à travers des communiqués. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Oui, Boko Haram est désormais dans le viseur du Cameroun et du Tchad. Les présidents Paulo Biya et Idriss Déby se sont accordés hier à Yaoundé pour déclarer la guerre à la secte islamiste Issa Napon.
Les présidents Paulo Biya et Idriss Déby Itno ont fait une déclaration de guerre à Boko Haram à l'issue d'une réunion à Yaoundé. Le président camerounais Paulo Biya n'a pas mâché ses mots contre la secte islamiste.
Les menées terroristes de Boko Haram qui se manifeste hélas tous les jours, demeure une menace permanente à la paix et à la sécurité. En ce qui le concerne, le Cameroun est disposé à examiner avec le Tchad qu'il s'agisse de patrouilles coordonnées, de partage du renseignement et d'échange d'informations ou de mécanismes de surveillance des frontières. C'est un sujet sur lequel nous ne pouvons pas faire de concessions.
Son homologue tchadien Idriss Déby, lui aussi, juge que Boko Haram est une force diabolique à éradiquer.
Que tous les musulmans m'écoutent, qu'ils soient du Tchad, du Cameroun ou sous d'autres cieux. Enlever des adolescentes n'est pas l'islam. Tuer des innocents n'est pas de l'islam. Le Cameroun et le Tchad doivent travailler ensemble et faire face ensemble pour barrer la route à toutes les forces du mal. Les musulmans de par le monde doivent unir leurs efforts et combattre l'obscurantisme et ses obscurantistes terroristes.
Les deux leaders ont appelé les populations à coopérer avec les forces de sécurité pour dénoncer tout suspect. Cette tâche de dénonciation sera difficile en raison de la peur des populations pour leur propre sécurité, selon Frédéric Anyangma, un résident du nord du Cameroun où opère Boko Haram.
Les gens sont réticents parce qu'ils n'ont pas confiance aux forces de sécurité. C'est-à-dire que si quelqu'un a un voisin, il estime qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, à partir de son comportement, être impliqué dans les actes terroristes ou alors de criminalité que nous décrions. Ils ne sont pas sûrs qu'en donnant l'information à la police va garder l'information pour elle-même. Parfois, même si on ne donne pas le nom de la personne qui a donné l'information, le simple fait de dire que l'information vient de votre entourage, ça fait que celui qui est indexé va suspecter tout son entourage. Évidemment, donc, il va s'en prendre à ses voisins parce qu'il va estimer qu'il a été trahi.
Les deux présidents camerounais et tchadiens se sont rencontrés au moment où les États-Unis ont déployé 80 personnels militaires au Tchad pour aider à la recherche des centaines de lycéennes enlevées le mois dernier par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Tension politique au Niger, l'adversité entre opposition et majorité serait-elle en train de laisser place aux attaques armées ? Au regard des derniers événements, notamment l'attaque des locaux du parti au pouvoir hier, Abdulrazak Idrissa fait le point.
Au petit matin du mercredi 21 mai, le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale et sa famille furent réveillés par des tirs d'armes à feu sur leur domicile et l'enquête a été confiée à la police judiciaire. Mais le concerné, lui, n'exclut pas une tentative de règlement de compte politique. Ben Omar Mohamed.
La sentinelle a constaté la présence de trois personnes sur une moto et qui ont tiré à peu près à 30-40 mètres dans le virage sur eux. Et après quoi, ils ont fui. Maintenant, dans leur fuite, ils ont également jeté une grenade. Heureusement pour nous, qui n'a pas explosé. La cible, c'est mon domicile, c'est ma famille, c'est moi-même. C'est cela. Une enquête est ouverte. Bon, on va attendre les conclusions. De toute façon, moi, je suis un homme politique. Je ne peux avoir que des problèmes politiques à les gens. En dehors de la politique, je n'ai des problèmes avec personne.
Au lendemain de cette attaque, plusieurs militants du parti du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, sont interpellés à la police judiciaire. Parmi ceux-ci, le responsable régional de Niamey, Soumana Sanda, et le fils aîné de Hama Amadou. On apprend un jour plus tard que c'est dans le cadre de l'enquête sur l'attaque du domicile du quatrième vice-président du Parlement. Le parti de Hama Amadou n'y croit pas un seul mot. Mossi Boubacar, député au titre du Modène Lumana.
On a demandé à Soumana Sanda une question. Quel est son degré d'implication dans le tir de chez Ben Omar? Est-ce que c'est à lui de dire son degré d'implication? Si on l'arrête, si c'est par rapport à ça, c'est à eux de le prouver, de le dire. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucun motif sérieux pour lequel on les arrête. C'est arbitrairement, c'est sur la base de soupçons, c'est sur la base de psychose généralisée. Eh bien, ce sont des gens qui ont peur maintenant de leur ombre et ils se mettent à tirer sur tout ce qui bouge.
On était là lorsque, le jeudi matin, trois bidons de 4 litres remplis d'essence auraient été jetés sur le siège national du parti présidentiel et brûlé gravement trois personnes. Fumako Egado, vice-président du PNDS Tareya.
Il s'agit bel et bien d'une attaque criminelle qui a été perpétrée par des individus inconnus pour le moment qui sont venus à bord d'une Mercedes. La police informée est venue faire le constat et elle est en train d'investiguer pour pouvoir identifier les auteurs donc, de cette attaque. Le seul indice que nous avons, c'est que lorsque les gens se sont réveillés brusquement, ils ont vu trois individus donc, prendre la fuite à bord d'une Mercedes dans la ruelle adjacente.
Beaucoup de Nigériens se demandent si tout cela n'est pas lié à l'adversité politique devenue aiguë entre majorité et opposition, surtout entre le parti du président de la République et celui du président de l'Assemblée nationale. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour la Voix de l'Amérique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge avec vous, juste pour vous dire de ne pas manquer samedi à 19h30, temps universel, le magazine au féminin. Dans cette édition, notamment une discussion avec Sophie Crozet, juriste au Conseil national pour les réfugiés, qui parlera des jeunes filles déplacées par les conflits armés en Centrafrique et dans le monde. Rendez-vous à ne pas manquer samedi sur La Voix de l'Amérique.
Voilà, direction le Bénin à présent, où on continue de parler de l'affaire Talon. Le président Boni Yayé a pardonné les co-accusés qui ont pu retrouver leur famille, mais les poursuites ne sont pas totalement terminées.
Ils étaient soupçonnés d'être impliqués dans une tentative présumée de coup d'État et d'empoisonnement du président. De Cotonou, la correspondance de Peggy Ludovic Dagba.
Le pardon présidentiel intervenu le 14 mai dernier a commencé par produire ses effets vis-à-vis des détenus dans les affaires tentatives d'empoisonnement du président de la République et des coups d'État. Mujahid Soumano, Cora Zoubérat, la nièce du chef de l'État, Mama Cissé, son médecin personnel et consort, ont recouvré leur liberté et ont rejoint leur famille respective.
Je suis très heureux de recouvrer ma liberté. Et je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Mais je demeure triste. Je demeure triste en raison du scandale national qui est devenu ce scénario. Je demeure également triste que la santé humaine n'a pas de limite pour nuire à travers toutes les manifestations de ce montage, de ce scénario. Et je voudrais sincèrement dire pardon à M. Talon pour tout ce qu'il a subi.
Je n'ai rien à déclarer pour le moment. Je suis un militaire. Le temps des révélations viendra plus tard.
Je suis très contente, mais je suis toujours révoltée. Parce que tout ce qui a été raconté à mon nom n'est pas bien. Tout cela est méchant. Je remercie mon avocat. Je remercie mes parents qui m'ont soutenu. Je remercie le peuple béninois. Je remercie mes amis.
Quid du principal accusé dans cette affaire contraint à l'exil jusque-là, Patrice Talon. Pourra-t-il rejoindre son pays les prochains jours? Rien n'est moins sûr. L'énigme demeure non élucidée, selon son avocat, Maître Joseph Jobino.
Au moment où je vous parle, les mandats d'arrêt internationaux survivent, comme la Cour suprême l'avait indiqué. Et donc, nous attendons le 16 juin avec sérénité et lucidité. On peut dire un volet, parce que toute cette affaire est liée aux relations entre deux hommes, M. Boni Yaye et M. Talon. Et il y a des aspects qui sont relatifs aux sociétés de M. Talon, Couton, PVI, etc. C'est un ensemble relationnel, comme on peut dire. Et on veut espérer pour le Bénin que cet ensemble relationnel soit réglé dans l'intérêt de chacun, dans l'intérêt de tous. Si la chambre d'accusation de la Cour d'appel n'a pas pu statuer au fond, donc il appartient au ministère public de poursuivre. Est-ce que même le ministère public qui poursuit est en mesure d'arrêter la poursuite en l'état? On vous a parlé d'abandon de poursuite. Tout le monde s'interroge, et moi en premier.
Le 16 juillet prochain est retenu pour connaître de l'abandon ou non des poursuites dans ces affaires par le ministère public béninois. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la Voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur la Voix de l'Amérique.
Alors, il est 14h48 ici à Washington. Vous suivez le monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure des sports et j'accueille Félix Yepassis Yembrou. Bonsoir Félix.
Bonsoir Bagassi.
C'est le week-end qui sera bien sûr très très chargé en matière de football. D'abord la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération qui commence dès demain.
Oui, dans le groupe A, demain samedi, c'est que Mimosas de Côte d'Ivoire affronte la C. Léopard de Dolizy du Congo-Brazzaville, le Coton Sport du Cameroun reçoit l'AS Real de Bamako dans le groupe B dimanche. Kana FC de Zambie reçoit le CO Sport San Pedro de Côte d'Ivoire. Et l'AS Sahel de Tunisie joue contre Al-Ahly d'Égypte.
On joue également la deuxième journée de la phase de groupe en Ligue des Champions cette fois-ci.
Oui, dès demain samedi, dans le groupe A, le Zamalek d'Égypte affronte Al-Hilal du Soudan. Dimanche, derby congolais en RDC entre les corbeaux du tout-puissant Mazembe et l'AS Vita dans le groupe B. Demain samedi, Ali Benghazi de Libye joue contre l'AS Tunis de la Tunisie. Et dimanche, l'AS Sétif d'Algérie affronte les Tunisiens du CS Sfaxien.
On reste en football pour dire que Emmanuel Adebayor, le joueur togolais, donc, ne croit pas aux éléphants de Côte d'Ivoire.
Oui, après le joueur ghanéen Michael Essien qui a dit que son pays est capable d'aller jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, voici le tour de l'international togolais Emmanuel Adebayor. Cité par Foot Africa 365, l'attaquant togolais dit qu'il ne croit absolument pas aux chances de la Côte d'Ivoire, pourtant l'équipe la mieux placée au classement FIFA. Je n'ai jamais cru en eux. C'est le pays qui va toujours vous décevoir. Ils ont eu le meilleur attaquant d'Europe avec Didier Drogba. Ils ont actuellement le meilleur milieu de terrain avec Yaya Touré, mais aussi un des meilleurs attaquants d'Angleterre avec Wilfried Bodi. Mais il n'y a pas de solidarité, a déclaré Emmanuel Adebayor au Daily Express. Ils vont parler, rire et s'amuser ensemble, mais le moment venu, ils oublieront de faire leur travail. Comment se fait-il que lors des 4 ou 5 dernières années, ils n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations ? Tout le monde veut passer pour le héros et c'est ce qui est en train de tuer la Côte d'Ivoire, a conclu le buteur de Tottenham.
Et on espère que le moment venu, les éléphants feront leur travail. Merci Félix et bon week-end.
Merci.
Et voilà quelqu'un qui est là pour faire son travail, n'est-ce pas Morgane?
Et quel travail, puisqu'il va nous faire terminer cette émission en beauté, relax.
Bien sûr, relax avec un artiste jamaïcain qui est très fort aussi au Japon. Hein. C'est rare quand même de voir des artistes jamaïcains très forts, très très forts au Japon. Comme Chino, ça fait longtemps, qui fait du dancehall, hein, de la bonne musique.
Ne me dis pas qu'il joue le reggae au Japon.
Il ne joue même pas le reggae au Japon. Il fait du dancehall.
C'est très, très, très apprécié au Japon, hein, la dancehall.
Mais oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais attends, je ne comprends pas. Quel rapport il y a entre japonais et dancehall, hein? Il n'y a pas beaucoup de Jamaïcains quand même au Japon.
Non, non, je pense que c'est juste par musique, un choix. Hein. Ils aiment. Et d'ailleurs, très souvent, chaque année, il y a les dancehall queens.
Ah.
Eh bien, veuillez bien croire que il y a souvent des Japonaises qui détrônent les Jamaïcaines dans les championnats de danse.
Non.
Mais il faut aller sur YouTube.
Je cherche ça ce soir. Je promets, je cherche ça ce soir. Merci, Morgane. Mais on écoute Clap It de Chino.
Yeah, yeah. Clap it up, girl. Yo, the one I'm serious, Gina one the genius. Anytime we step in here, hot girl greet us.
Baby, you are mad the Monday. When you whine, you are cause the problem. Girl, oh, you are whine and I want so bad. You are clap it and then I use your hand, girl. Just clap it, clap it, clap it. Anytime you're ready, you feel drop it and clap it, girl. Just clap it, clap it, clap it. Anywhere you see, we have to clap it and drop it, yeah. Just clap it, clap it, clap it. Girl, when you see we have to drop it and clap it, girl. Just clap it, clap it, clap it. Anytime you're ready, you feel drop it and clap it, yeah.
The way you clap it and you dip it and you jump, girl. And the way you tick it and you tack it when you walk,
girl.
And the girl I watch and I wonder how you do that,
girl.
I chew them good, you feel the thing them where you got,
girl. You know clap it and drop it in and nobody frog, girl. You are good as
a yakuza. Wow, super clap it. T'aimes quand même, qu'est-ce que ça dit là,
Bagassi? Ça danse un peu, là.
Ça danse un peu?
Oui, je parle de tes mouvements.
Mais si tu croyais aussi que la musique congolaise est aussi bien écoutée au Japon?
Ah bon?
Oui, oui, oui. Il y a même un groupe, et ça, tu peux trouver ça sur YouTube. Il y a un groupe complètement japonais, femme, homme, ils chantent en lingala.
Aïe, aïe, aïe.
Oui.
Oh
oui.
Ben ouais, il faudrait nous passer ça la prochaine
oui,
fois.
Oui, 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 ça, c'est sûr.
La semaine prochaine, on va veut entendre ça.
Mais bien sûr, promis.
C'est sûr que les Japonais connaissent les pas de danse
de Ndombolo, tu veux dire?
Du Ndombolo.
Mais ça, c'est sûr. Ça ne m'étonnerait pas s'il y a un groupe japonais qui chante, qui fait le zouglou aussi.
Ça, ah oui
mais je te dis, ça, enfin, je n'ai pas encore vu.
Moi,
hein.
Je suis très pressé d'écouter ça. Hein.
Bon, en tout cas, la semaine prochaine, on veut
la semaine prochaine,
groupe...
j'amène ça. Ouais, pour Morgane, tu vas trouver, ça sera super. Mais je t'amène ça, ça c'est promis. Mais en parlant de...
Coupé décalé à la japonaise.
Chino, merci Morgane. De Chino. Chino, dans une interview qu'il a livrée à la télé, il a dit qu'il est né encore vers les années 90. Donc, ses fans, c'était Shabba Ranks, qu'on connaissait très bien. Hein, Shabba Ranks, il y a aussi les autres artistes comme KRS-One, Mad Lion et bien sûr Shaggy.
You're whining, I give you a loan addiction. Get wild when you see we have chroma fiction. The way she a whine and rotate, come in like Serato with chroma mix.
Girl, if I do you, you a rock your own a Christian. Out the door, you a park your own a Chris Van. If we could talk about the money you make a week time, you could have owned Pakistan, girl. Just clap it, clap it, clap it. Anytime you're ready, if you drop it and clap it, girl. Just clap it, clap it.
Voilà, c'était Chino Clapit. Merci Roger.
De rien Morgane, bon week-end.
Bon week-end Roger Muntou. Ceci dit que vous retrouvez dans quelques minutes dans le RM Show à 20h temps universel. Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Yemi à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Morgane Guiriac au micro.
Et Bagassi Koura.
À lundi.
À lundi.